Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Voici Yannick Bouchard.
Un plaisir de vous retrouver pour compléter votre semaine et débuter votre long week-end de la fête du travail. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux amateurs de sport. La première édition de septembre, 1er septembre 2023. Lentement mais sûrement, on s'en va vers l'automne. Lentement mais sûrement, on s'en va vers les camps d'entraînement de la Ligue nationale de hockey. Mais disons qu'en fin de semaine, je vais vous dire une chose. Ça va ressembler pas mal à l'été. J'espère que vous allez pouvoir en profiter. Ou sinon, eh bien, si vous travaillez, nous sommes là, partout au Québec, 98.5 à Montréal, FM 93 à Québec, 106.9 en Mauricie, 107.7 en Estrie, 104.7 en Outaouais, Kick 95.7 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et évidemment, vous pouvez nous suivre partout via l'application Cogeco Média. Merci d'être avec nous. On va essayer de vous faire passer du bon temps de 20h à minuit. On est là sur l'ensemble du réseau Cogeco Média. J'ai salué tous les auditeurs. Je salue mes deux collègues François Brisson et Jean-Sébastien Amal qui passent la soirée en notre compagnie. Et on va vous donner toute une émission ce soir, en ce vendredi 1er septembre. C'est pas les sujets qui manquent. Vous savez que demain, le CF Montréal affronte Wilfried Nancy et le crew de Columbus au stade Saputo. Jérémy Filosa sera avec nous et l'entraîneur-chef du crew, Wilfried Nancy, qui sera également avec nous un petit peu plus tard. Entrevue très intéressante à venir avec l'ancien président des Alouettes de Montréal, ancien joueur également de la formation, sénateur aussi, sera intronisé au Temple de la renommée du football canadien. Ça se fera officiellement le 15 septembre, mais c'est demain qu'on va les célébrer lors du match Alouette-Lyon. Larry Smith sera avec nous après les nouvelles de 21h. Bruno Eppel viendra nous parler de ce match que disputeront les Alouettes face au Lyon de la Colombie-Britannique. La rencontre est présentée sur nos ondes à 18h avec l'émission d'avant-match. On va vous parler aussi, de quoi on va vous parler? Ben, écoutez, la grande nouvelle, la Ligue professionnelle de hockey féminin qui a procédé au dévoilement des 6 directeurs généraux de son circuit. Entre autres choses, Pascal Daou, premier directeur général de la formation new-yorkaise, ancien DG des Foreurs de Val-d'Or, sera avec nous un peu plus tard. Et aussi, il y aura la tribune téléphonique qui va porter sur le hockey féminin ce soir. On a fait grand état de l'instauration de cette ligue professionnelle de hockey féminin. Il était temps. La majorité des gens se disent que enfin, les joueuses pourront jouer dans un circuit digne de ce nom. Et la question, ça va être très simple. Avez-vous de l'intérêt et qu'est-ce que ça signifie l'instauration de cette ligue professionnelle de hockey féminin? Et pour commencer, on ne pouvait passer à côté, évidemment. Première directrice générale de l'équipe montréalaise de la ligue professionnelle de hockey féminin. Danielle Sauvageau est avec nous aux amateurs de sport. Danielle Sauvageau, madame la DG, bonsoir.
Bonsoir, comment vas-tu?
Ça va bien, Danielle, toi?
Ben oui, ça va très, très bien.
Tu dois être une femme heureuse.
Très heureuse. Je le sais depuis quand même quelques semaines. Mais en même temps, de respecter le processus, de respecter les annonces, c'est quand même une grosse nouvelle. C'est vraiment la structure qui, jusqu'ici, dans l'histoire du hockey féminin, est la plus organisée. Les propriétaires qui sont derrière cette ligue-là ont pris leur temps, négocié, entente CBA, comme on dit en anglais, là, tout ce qui est la convention collective avec les joueuses, de vraiment prendre le temps de choisir les villes. On s'attendait que Montréal soit un endroit de choix, Toronto, on attendait les autres villes. Alors là, ça tardait, mais enfin, la nouvelle, d'abord en début de semaine, qui a annoncé la Ligue, qui a annoncé Montréal, et aujourd'hui, la nouvelle que c'est moi qui va diriger là, l'équipe. Alors, change un petit peu de chapeau. C'est mm-hmm. Le centre passe vraiment en mode équipe. C'était le plan d'affaires lorsqu'on a lancé cet endroit-là, de continuer évidemment d'offrir de l'offre de services là, aux prochaines générations avec des camps estivaux et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est une belle nouvelle, une grosse journée.
La gestion du centre 21.02, c'est ce dont tu parles, qui a été finalement construit en vue d'accueillir une équipe de hockey féminin, non?
Oui, tout à fait raison. C'est arrivé là dans la séquence de la fermeture de la Ligue canadienne de hockey féminin. Mmh. Les joueuses, les Marie-Philippe Poulin et les Anne-Renée Desbiens n'avaient plus d'endroit pour d'abord et avant tout s'entraîner. Alors, on a vraiment travaillé là avec le gouvernement du Québec, avec INS, Hockey Canada, Barry Lorenzetti, là, qui est un financeur fondateur, pour dire ça nous prend un endroit. Et on a réussi à le faire. Il est arrivé la COVID. Pendant la COVID, c'est le seul endroit que les joueuses pouvaient s'entraîner avec la dérogation parce que ces athlètes-là étaient en entraînement vers les Jeux olympiques de 2022. Et là, ben, on attendait, on a fait des showcases. Tout l'été, là, on a eu tout près de 100 joueuses de plusieurs catégories, là, 15 ans et plus, à s'entraîner. Les filles s'entraînent. Il y a un gym, il y a une clinique. Alors, ça a été créé en disant, ben maintenant, ce qui manque, c'est ce qui est prévu dans le plan d'affaires, c'est l'équipe. Et là, ben on l'a. Alors, le plan d'affaires a fonctionné.
OK. Surprise, Daniel, d'avoir reçu le coup de téléphone pour t'offrir le poste de DG?
Bien, surprise, je le voulais, ce poste-là. Je pense que c'est en lien là avec ce que j'ai développé au cours des années. Je voulais participer au lancement de cette nouvelle ligue. Est-ce que c'était pour être au sein de la ligue? Mais je me retrouve exactement là où je voulais être, c'est-à-dire près d'une équipe, de continuer à travailler avec des coachs, avec les athlètes et de continuer aussi à développer tout l'écosystème du hockey féminin ici à Montréal, mais au Québec principalement.
Contrat de combien de temps que tu as signé, Daniel?
En fait, c'est un contrat, je vais dire, d'employé. Ça a un début, mais on ne sait pas une fin. Alors, c'est sûr qu'on dit souvent, c'est normal dans la Ligue nationale, c'est des contrats de 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe. Mais nous, on commence, et puis ce qu'on veut, c'est de construire. Alors moi, je suis habituée à ce type de contrat-là. Des fois, ça apparaît anormal, mais c'est de cette façon-là que la Ligue voulait partir. Alors, on est un peu comme en probation, mais d'une certaine façon, je pense que ça devait être comme ça pour s'assurer là, qu'il y avait une certaine pérennité d'assurer.
Votre entraîneur est déjà choisi, c'est vrai?
J'ai identifié une personne là qui a accepté de devenir entraîneur ici à Montréal. Et le souhait, c'est d'être procédurier, étapiste. On a annoncé la Ligue, on a annoncé les DG, et la semaine prochaine, là, on va être en mesure là d'annoncer le coaching staff ou du moins l'entraîneur-chef.
Une femme?
Une personne.
OK. Est-ce que cette personne-là... OK. Est-ce que cette personne-là, dans un marché comme Montréal, doit absolument parler français?
En fait, ça a toujours été un petit peu ça du côté masculin. C'est préférable. Moi, je parle français. On veut vraiment construire là un coaching staff et une organisation qui va répondre à l'identité de Montréal et évidemment là à tout ce que ce soit le français, que ce soit d'être capable d'être très impliqué dans la communauté. Alors, on va, comme organisation, répondre à ses objectifs et ses attentes, surtout.
Admettons qu'on jase, Daniel, là.
Mettons qu'on jase.
Une fille qui est dans notre cour avec les Stingers de Concordia, est-ce que ça pourrait être une candidate de choix?
tout est considéré présentement. Et évidemment, tu parles de Caroline Ouellette. Tout est sur le plancher, sur la table, je devrais dire, pas sur le plancher, ça c'est vraiment une traduction. J'ai parlé plus souvent en anglais aujourd'hui, on dirait. Mais on regarde là et puis de construire l'organisation qui sera à la couleur là, d'un ADN de Montréal.
Est-ce que ça a été ta décision ou ça a été fait en comité, cette décision? Ça a été pris en comité?
C'est vraiment une décision qui est aligné après des rencontres, après des réflexions. Ça fait, comme je te disais tantôt, là, quelques jours, plus d'une semaine que je discute avec des gens. Et puis, c'est avec, justement, un peu les personnes qui peuvent être impliquées dans ce genre de décision-là qui ont d'abord et avant tout participé aux réflexions et ensuite aux recommandations.
Toi, tu as eu la confirmation du poste quand? Depuis quand tu le sais?
En fait, ça fait tout près de deux semaines là, que j'ai reçu l'appel.
Et tu t'es mis au travail pour trouver l'entraîneur à partir de ce moment-là ou tu t'es laissé un petit peu de temps de réflexion avant de procéder?
Non, en fait, j'ai même commencé là, l'année dernière avec la formule que l'association des joueurs avait. Il y avait une équipe, pas nécessairement ici à Montréal, mais il y avait quand même un groupe là, de plus de 20 joueuses qui s'entraînent au centre régulièrement. Et il y avait des équipes qui étaient formées et là, on allait jouer dans les vitrines. Alors, on a commencé vraiment l'année dernière en disant, ben un jour, la Ligue va arriver. Alors, c'est quoi les intentions? C'est quoi les intérêts? Qui pourrait être intéressé? Qui voudrait s'impliquer? À quel poste? À quel niveau? Temps plein? Pas temps plein? Alors, c'est des réflexions qui ont déjà été en amont. Pour tenter d'être le plus près possible avant l'annonce et ça s'est accéléré visiblement lors des deux dernières semaines.
OK. Je reçois un message à Messagerie Texte. Tu vas être contente de l'entendre. C'est Sophie qui dit « Il était grand temps que les filles prennent enfin la place qui leur revienne dans le hockey féminin professionnel. Je serai au rendez-vous pour vous encourager. » Daniel, ma question est peut-être plate, mais je vais te la poser quand même. Qu'est-ce qui fait que ça va fonctionner cette fois-ci?
D'abord et avant tout, le produit. Je pense que le niveau de jeu de ces femmes, de ces athlètes, le mouvement, en deuxième, le mouvement du sport féminin, tu dois sûrement avoir vu cette semaine là le match de volleyball qui s'est joué dans l'ouest des États-Unis, 91 000 personnes. Donc, il y a un mouvement pour le sport dit féminin. Et les propriétaires. Il y a deux groupes principaux, le groupe Walter, qui sont les propriétaires des Dodgers de Los Angeles, une équipe de basketball, les Chelsea, au niveau du soccer en Europe, et Billie Jean King. Alors, ce sont deux groupes qui sont impliqués, ça fait plus de 18 mois. Ils ont investi, on a une structure de pouvoir engager, de procéder à l'embauche à tous les niveaux, que ce soit, on a parlé de l'entraîneur-chef, jusqu'au préposé à l'équipement, jusqu'au staff médical. Donc, j'ai jamais vu ça. J'ai simplement jamais vu une structure comme ça, autre qu'avec l'équipe nationale. Alors, on est vraiment ailleurs.
OK. Premier match, 1er janvier 2024.
Oui, la Ligue va débuter pour la prochaine année en janvier, terminer autour de la fin mai, début juin. Et l'année prochaine, ce qui est prévu, c'est de commencer en novembre. 24 matchs. On va jouer 12 matchs en principe à Montréal. Quelques-uns de ces matchs pourraient se jouer, par exemple, contre Toronto ou Boston, dans une autre ville neutre pour continuer à développer les marchés et de continuer à développer le hockey féminin.
Au Québec, ça, vu que c'est à Montréal, ou c'est une ville neutre ailleurs en Amérique du Nord?
Complètement neutre. Okay. Est-ce que ça pourrait être, par exemple, Calgary, Seattle, Los Angeles? Ça pourrait, l'information qu'on a et qui a été annoncée par le propriétaire mardi, c'est vraiment dans des villes neutres, autres qu'au Québec.
Afin de procéder à une expansion rapide, j'imagine?
Rapide, présentement, le plan, ça va éventuellement le faire. Est-ce que c'est 3 ans? Est-ce que c'est 5 ans? On se laisse beaucoup d'agilité au sein du leadership pour prendre ce genre de décision-là. Même la question y a été posée à savoir si un jour les franchises vont être à vendre. La réponse a été assez claire. Ce n'est pas dans les plans présentement. Est-ce que ça pourrait le devenir? Oui.
OK. Rapidement, Daniel, marché des joueurs autonomes s'est ouvert cet après-midi?
Oui.
OK. Marie-Philippe Poulin, est-ce qu'elle va jouer à Montréal?
On est très confiante de s'assurer que la meilleure joueuse au monde qui vient du Québec puisse être vue par par les gens du Québec, par sa famille, par ses amis.
Mais ça pourrait être annoncé quand, ça, la mise sous contrat de Marie-Philippe Poulin?
On regarde les modalités de ça. On en a parlé encore hier. Quand est-ce que la Ligue, visiblement, là, veut avoir des annonces progressives? Au moment où je te parle présentement, je n'ai pas ces réponses-là. Mais ça va se faire quand même dans les prochains jours. On sait que le marché, c'est 10 jours. Alors, les équipes ont 10 jours pour signer leurs trois premières joueuses. Il y a plein de choses, évidemment, qui rentrent en ligne de compte. Alors, c'est sûr qu'on aimerait annoncer ça publiquement le plus rapidement possible.
Ouais.
Excuse. Mais je peux pas te donner un moment là très précis là ce soir.
D'ici 10 jours, ça devrait être annoncé.
Oui, 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 oui.
Des bonnes chances?
Très confiant.
Déjà des discussions?
Visiblement qu'il y a des discussions avec plusieurs joueuses. On essaie évidemment là d'obtenir. T'sais, ce sont des joueuses de concession. C'est des joueuses qui vont être l'image, les ambassadrices de la première équipe professionnelle à Montréal.
Rapidement, quelqu'un qui demande les salaires, Daniel, ça va ressembler à quoi?
Les salaires, c'est une convention collective qui a été négociée avec et votée à l'unanimité par les joueuses. Ce n'est pas, il n'y a pas un cap salarial, un plafond, mais plutôt, faut garder une moyenne de 55 000 US.
Mm-hmm.
Le plus bas salaire, c'est 35 000 US. Il n'y a pas de plafond, mais il faut garder une moyenne de 55 000 $ là, évidemment, avec 23 joueuses.
Daniel Sauvageau, première directrice générale de l'équipe montréalaise de la Ligue professionnelle de hockey féminin. Merci, Daniel. Félicitations. Puis on suit les prochaines annonces avec intérêt.
Parfait. Merci beaucoup.
Merci,
bonsoir,
Daniel. Bye-bye.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Nous avons le plaisir aux amateurs de sport de s'entretenir avec Wilfried Nancy, entraîneur du Crew de Columbus. L'équipe affronte le CF Montréal demain soir au Stade Saputo. Monsieur Nancy, bienvenue à l'émission. C'est un plaisir de vous parler. Vous allez bien?
Ça va, vous. Plaisir de partager.
Ça va très, très bien. Qu'est-ce que ça vous fait de remettre les pieds à Montréal depuis votre départ du CF?
Bah, c'est sûr que ça fait bizarre de revenir et surtout de vivre comment les équipes adverses sont à l'hôtel, sont dans le centre-ville, et puis voilà, donc je découvre ça. Mais ça fait plaisir de retrouver la langue française, ça fait plaisir de respirer un peu l'air de Montréal, ça fait plaisir de voir des personnes, donc ouais, je suis content.
Montréal vous a manqué au cours des derniers mois?
Bien sûr, Montréal c'est une ville qui où j'ai beaucoup de passé. Et en même temps, j'ai beaucoup d'histoire, j'ai beaucoup de mémoire par rapport à Montréal. Donc du coup, il y a toujours mes enfants sont de Montréal, ma femme est de Montréal aussi. Donc du coup, on a toujours des petites anecdotes. Et il y a pas si longtemps, mon fils était en train de jouer et il a parlé avec un bon français québécois que j'adore. Donc du coup, on a tous rigolé.
ce sera toujours un endroit spécial pour vous, Montréal. Quels souvenirs vous reviennent en tête lorsque vous pensez à votre passage ici?
Un peu tout. Tout à l'heure, j'ai marché un peu et je me suis je me suis rappelé de certains coins où j'étais arrivé, les premiers instants à Montréal. Et après, le fait de voilà, on en discute. On m'a posé la question récemment. Donc, il y a toujours des couleurs, il y a des immeubles, il y a des restaurants, il y a des les gens comment ils sont. Donc voilà. Donc, il y a toujours un petit flash, il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a une particularité avec Montréal. Donc, c'est plaisant.
Quelles émotions vous habitent en ce moment à 24 heures de ce match qui sera très spécial pour plusieurs, dont vous, dont Rudy Camacho, dont Evan Bush également. Est-ce que vous avez hâte au match de demain?
Oui, bien sûr. Je suis toujours excité quand il y a, en tant qu'entraîneur, quand il y a un match, parce que c'est toujours... on essaie de tout contrôler, mais on contrôle pas grand-chose. On peut contrôler que la performance. Donc, du coup, l'émotion, c'est le plaisir. C'est du plaisir. C'est de retrouver le stade, c'est de retrouver les gens, c'est de retrouver les fans de Montréal. Donc voilà. Donc c'est une belle émotion. C'est une émotion positive.
À quel genre d'accueil vous attendez demain de la part des amateurs de soccer ici à Montréal?
Sincèrement, je suis pas quelqu'un qui me pose ces questions-là.
Non.
Je vais rentrer sur le terrain et puis après l'accueil que j'aurai, en espérant qu'il soit un bon accueil, si c'est pas un bon accueil, je resterai concentré sur ce que je veux concentrer. Mais je me sens très bien, je me sens épanoui, je me sens bien avec ce que je fais, en accord avec moi-même. Donc, j'ai tout donné pour les fans de Montréal. Donc voilà.
Mais votre relation avec les amateurs de soccer ici à Montréal, c'était extrêmement fort. En plus, vous êtes parti sur une excellente note, laissant derrière vous une saison historique.
Ouais. Et ça va toujours rester gravé en moi. Et j'ai le fait d'avoir créé une histoire avec les joueurs, avec le staff, avec tous les gens qui m'entouraient, ça a été exceptionnel. Et le fait d'être reconnu par rapport à ça et de donner des émotions aux fans de Montréal, ça a été des moments qui ont été extraordinaires pour moi. Donc du coup, voilà, ça sera toujours gravé. Ça a été la première fois. Et en même temps, on a eu des, comme vous le savez, le soccer, c'est toujours, il y a toujours des hauts et des bas. Mais j'ai grandi, j'ai mûri, je suis devenu plus j'essaie de grandir encore un peu plus en tant que entraîneur, en tant que personne. Donc du coup ça a été fantastique pour moi. Tout, franchement, c'est que du positif et que du bonheur, vraiment.
Vous attendez à quoi demain de vos joueurs face au CF Montréal? Est-ce que vous allez leur en demander un peu plus qu'à l'habitude?
Non, je ne suis pas comme ça. Vous savez, je connais bien le football maintenant et le football, c'est jouer avec émotion, mais c'est aussi contrôler ses émotions. Et naturellement, les joueurs vont vouloir faire quelque chose de bien comme ils ont envie de faire, parce que la dynamique avec mes joueurs est bonne. Ils savent d'où je viens, ils savent comment je suis arrivé ici. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de gagner ce match-là, d'avoir une bonne performance dans un premier temps. Et après, vous savez, des fois dans le football, on veut tous gagner, mais on peut avoir une bonne performance et taper sur le poteau et pas gagner le match à la fin de la journée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de que mes joueurs donnent tout ce qu'ils ont à donner, comme ils le font d'habitude. Et après, s'il y a une extra motivation par rapport à ça, si ça peut leur permettre d'être meilleur, j'ai pas de souci avec ça. Mais mon discours ne sera pas basé sur il faut gagner parce que c'est Montréal. Pas du tout. Je vois pas les choses comme ça.
Votre équipe occupe le 5e rang de l'association de l'Est. C'était une lutte extrêmement serrée pour les équipes de 2e place, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. Et même on va jusqu'à 10 et 11 où il y a 30 points. Mais mettons par exemple jusqu'à Chicago qui occupe le 9e rang. Êtes-vous satisfait du rendement de votre équipe depuis le début de la saison après 26 parties?
Oui, je suis satisfait du rendement. Je suis satisfait des performances, étant donné que je suis arrivé avec une nouvelle méthode, je suis arrivé avec une nouvelle façon de faire. Et les joueurs de Columbus jouait d'une façon différente. Et la progression a été constante. Et j'apprécie vraiment tout ce qui se passe. Maintenant, on a perdu beaucoup de points en route, comme tout le monde. Mais on aurait pu avoir plus de victoires. Mais bon, voilà, on est obligé de passer par là pour grandir. Ce qui m'intéresse, c'est que le groupe grandisse bien. Et on est dans une bonne dynamique. Oui, on a perdu contre Houston, mais le match était quand même intéressant. Et on est dans les objectifs. Je connais pas le classement. Je sais que je vais commencer à m'enseigner un peu sur le classement. Vous m'avez dit qu'on était cinquième. Je le savais pas, parce que je fais pas attention à ça pour l'instant. Mais je sais qu'on a 12 victoires. Je sais qu'on il faut qu'on arrive aux alentours de 14 victoires pour être pratiquement sûr de faire les playoffs et après d'aller le plus haut possible. Donc maintenant, la conférence Est, you know, il y a eu beaucoup de débats entre la conférence Est et la conférence Ouest. Mm-hmm. Je peux vous garantir que la conférence Est est très très difficile, très très difficile. Et comme vous le savez, comme vous voyez, tous les points sont serrés. Mais il y a beaucoup de compétition. Donc voilà, comme vous le savez, les derniers matchs, c'est toujours une nouvelle compétition. Donc j'ai hâte de voir un peu qu'est-ce que mes joueurs vont être capables de faire, parce qu'il y a de bons challenges devant nous. Donc l'idée, c'est de les relever.
Une chose est certaine, le niveau de motivation demain pour le match, qu'on le veuille ou non, sera quand même un petit peu plus élevé qu'un autre match normal. Êtes-vous d'accord avec ça?
Totalement, puisque, écoutez, aujourd'hui, je peux sentir que du côté que ça va pas être un match normal, étant donné qu'on s'est entraîné aujourd'hui et on s'est pas entraîné, on nous a pas donné l'autorisation de s'entraîner sur le terrain naturel, on s'est entraîné sur le terrain artificiel. Depuis que j'ai été à Montréal, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire. Oh. Donc regardez, c'est comme ça. Donc on a eu un bon entraînement sur le terrain synthétique. Donc voilà, on va faire ce qu'on a besoin de faire demain pour être performant, et après on passera à autre chose.
Vous auriez préféré tenir votre entraînement sur le gazon naturel, n'est-ce pas?
On veut faire comme toutes les équipes, tout simplement. Mm-hmm. Je demande pas de passe droit, je demande juste de faire comme les équipes. Apparemment, je sais pas, peut-être qu'on m'a puni, je sais pas. Mais bon, en tout cas, on a fait un très bon entraînement, donc c'est le plus important. Les joueurs ont toujours fait face à l'adversité, donc ce n'est pas un souci. On sera compétitif demain pour jouer le match.
Déjà, on sait que ça va être un match particulier. Vous avez dit plus tôt aujourd'hui, M. Nancy, que le projet à Columbus est clair, la vision aussi. Qu'est-ce que ça veut dire?
Non, ça veut dire que tous les projets pour moi sont clairs. Maintenant, après, la différence, c'est quand le bateau vacille. Est-ce qu'on reste dans la clarté ou est-ce qu'on change de dynamique? Donc, écoutez, moi, pour l'instant, par rapport à ce que j'ai vu, c'est pour ça que je suis aujourd'hui à Columbus. Au niveau de ce que l'on veut mettre en place, je suis venu aussi pour ça, pour restructurer un peu certaines choses au niveau du terrain. Donc, écoutez, on est en accord, c'est cohérent ce que l'on fait. Et après, comme tous les clubs, on veut essayer d'aller le plus haut possible. Mais ce qui est le plus important pour moi, pardon, c'est la cohérence. Il y a beaucoup de cohérence dans le projet de Columbus, donc je suis content avec ça.
Le projet correspondait plus à ce que vous souhaitiez amener avec une équipe de la MLS. C'est ce que je comprends?
Non, écoutez, le projet à Montréal a été, quand j'ai pris l'équipe, le projet a été clair. On a des jeunes et l'idée, c'est de faire développer des jeunes et d'être compétitif. Et donc, sur le court terme, ça a été super intéressant parce que, ben voilà, avec mon staff, on a réussi à atteindre les objectifs. Et comme vous l'avez dit, on a fait une saison historique avec, comme vous savez très bien que les moyens à Montréal ne sont pas, c'est un choix. Mm-hmm. Il pourrait y avoir plus de moyens, mais c'est un choix de Montréal. Et on a réussi à non seulement donner des émotions et du plaisir aux fans, non seulement participer au développement des joueurs pour que le club de Montréal vende des joueurs et qu'ils rapportent de l'argent, et en plus de ça, avoir beaucoup de joueurs aussi en équipe nationale qui a aussi rapporté beaucoup d'argent à Montréal. Donc, écoutez, avec d'où on vient, comme on dit, on a été confiant et humble, et on a été capable de redonner beaucoup à Montréal. Maintenant, après, le projet, il est ce qu'il est, chacun a son projet. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir de la clarté. Aujourd'hui, dans le club dans lequel je suis, j'ai beaucoup de clarté.
Et vous étiez rendu à une étape supérieure dans votre propre carrière d'entraîneur.
Oui, ben ça, c'est la. Comment je pourrais vous dire ça? Parce que là, je cherche le mot en anglais. Maintenant, il faut que je parle français. C'est, c'est, c'est la maturité et c'est en même temps l'histoire d'un entraîneur. Vous savez, l'histoire d'un entraîneur est dynamique. Aujourd'hui, je suis dans le club de Columbus. Dans le futur, je serai dans un autre club. Il va y avoir des hauts et des bas. Et moi, ce qui m'importe, c'est que tous les jours, je sois capable d'être meilleur que j'ai été le jour d'avant, que ce soit en tant que personne ou en tant qu'entraîneur. Et aujourd'hui, c'est mon objectif personnel et je suis content de ça. Je m'épanouis. Et en même temps, j'apprends toujours parce qu'on est toujours en train d'apprendre. Et j'essaie de relever les challenges que je me fixe dans un premier temps. Et les challenges aussi qui sont fixés aussi par le club et l'institution par rapport à ce qu'on veut faire. Oui.
Monsieur Nancy, quelle est la grande différence entre le marché de Montréal et celui dans lequel vous évoluez en ce moment à Columbus?
Le marché est le même. Après, comment je pourrais dire ça? C'est plus au niveau de la vision. Qu'est-ce que les personnes qui lident le club, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Comment ils veulent investir? Est-ce que ils sont plus sur le développement? S'ils sont plus sur il y a des clubs qui sont un peu plus sur le développement, il y a des clubs qui sont un peu plus sur des joueurs un peu plus vieux, il y a des clubs qui sont un peu entre les deux. Maintenant, après, le marché, c'est un marché MLS, donc c'est la même chose. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je suis venu à Columbus aussi parce que voilà, ils avaient une équipe qui faisait partie des équipes les plus vieilles de la ligue. Là maintenant, l'idée c'est de rajeunir. L'idée c'est d'être sur le long terme, tout en sachant que je sais très bien que si j'ai pas de résultats, ça peut être difficile pour moi, mais ça c'est le métier. C'est sur le développement au niveau des joueurs et en même temps gagner d'une certaine façon. Donc pour moi c'est cohérent. Après, il y a certains clubs qui vont dépenser beaucoup d'argent sur un joueur, d'autres clubs qui vont dépenser de l'argent sur plusieurs joueurs. Et à Columbus, on est pour un peu plus dans ça, sur dépenser de l'argent, mais plus sur plusieurs joueurs pour que ça soit cohérent. Donc, je suis très content avec ça.
Mais est-ce que les amateurs sont plus intenses à Montréal qu'à Columbus ou le contraire? Est-ce que l'attention médiatique est incroyable du côté de Columbus? Est-ce que les journalistes sont aussi méchants, entre guillemets, à Columbus qu'à Montréal?
J'ai envie de vous dire, et je le dis pas d'une façon péjorative ou négative, je dis d'une façon docile, Montréal, c'est le Real Madrid des États-Unis et du Canada, dans le sens que les médias sont, il y a beaucoup de journalistes. Il y a un suivi qui est fantastique et j'ai pris énormément de plaisir à faire cet exercice-là parce qu'aujourd'hui, ben, à Columbus, bien sûr qu'il y a un suivi, mais il y a moins de journalistes. Mm-hmm. Et donc du coup, tandis qu'à Montréal, ben voilà, c'est pour ça que j'ai dit c'est le Real Madrid du Canada et des États-Unis parce que vous êtes nombreux et après tout est épié, ça cherche un peu toutes les histoires, tandis que dans le marché à Columbus, c'est beaucoup plus stable, on va dire. Après, bien entendu, il y a des histoires comme de partout, mais j'ai envie de vous dire que non, Montréal, c'est vraiment, vraiment au-dessus au niveau du suivi médiatique. Il y a pas de comparaison par rapport à ça. Non.
Aimez-vous, préférez-vous un marché un petit peu plus bouillant comme celui de Montréal ou un marché comme Columbus, c'est un petit peu plus effacé comme attention?
Sincèrement, j'aime les deux parce que, comme vous le savez, je viens de la France et le championnat français, je peux vous dire que, et les championnats en Europe, il y a beaucoup plus de pression. Et donc, c'est pour ça que de vivre ces moments-là, ces deux moments-là que j'ai vécu, que je suis en train de vivre aussi. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'à Columbus, il n'y a pas de pression. Il y a de la pression.
Ouais, ouais.
Que je veux dire, au niveau médiatique, c'est différent. Donc, du coup, je me sens bien dans les deux. Pour l'instant, je suis pas encore allé dans un club où quand j'étais joueur, quand on a des mauvais résultats, ben on peut pas sortir, on reste coincé dans le vestiaire pendant 3-4 heures parce que on peut pas sortir parce que les fans ne sont pas contents. Donc du coup, je veux dire pour l'instant, c'est pas encore arrivé, donc on verra un peu dans le futur, mais je suis bien dans, je m'adapte aux deux situations.
Monsieur Nancy, dernière question, elle concerne Lionel Messi et son arrivée dans la MLS. Comment avez-vous vu cette arrivée-là dans la MLS, celle de Lionel Messi, et qu'est-ce que vous trouvez qu'il peut apporter à votre circuit?
Ah, moi, je suis un fan inconditionnel de Messi. Donc, j'étais très content qu'il choisisse la MLS. Parce que ben, la MLS grandit. Le niveau de la MLS devient très intéressant, très bon maintenant. Les gens sont surpris. Et que ça soit au niveau des installations, au niveau de la qualité, au niveau de tout. Et je connais des personnes qui côtoient Messi et Messi ne s'attendait pas à ça en termes de justement de d'infrastructure et de aussi qualité. Et pour moi, d'avoir la chance de pouvoir affronter Lionel Messi, je suis très fier de ça. Je suis très content de ça parce que pour moi, c'est le footballeur qui est remplaçable. Parce que j'aime, comme vous le savez, il y a beaucoup de complexité dans le sport de haut niveau, dans le soccer, et il est capable de rendre les choses simples. Et vous savez, des fois les DP, ils ont des attitudes où ils veulent tout faire, bien entendu, mais s'il le fait naturellement, mais il est capable aussi de faire la passe au joueur qui est libre, et il est capable de jouer dans le tempo. Et pour moi, c'est une qualité qui est extraordinaire. Donc il fait du bien. En même temps, ben voilà, c'est un. Il est toujours à un super niveau, donc il marche un peu plus, mais quand il marche, il regarde déjà l'action qui va se passer. Mm-hmm. Donc c'est un plaisir. Donc du coup, je suis très content pour la Ligue. Je suis très content aussi que ça ouvre les portes un peu à tout le monde et que maintenant, ben, tout le monde y a encore un peu plus de visibilité. Donc du coup, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Maintenant. On verra comment il va gérer un peu, parce que là, tout est nouveau, tout est beau. Maintenant, on va voir comment ils vont pouvoir gérer un peu toute une saison. Mais je suis très, très, très content que, bien entendu, que Lionel Messi soit là. Et c'est bien pour la Ligue.
Malheureusement, votre équipe ne l'affrontera pas d'ici la fin de la saison.
Non, on va pas l'affronter. Donc, je peux vous dire que ça va pour moi. L'affronter l'année prochaine, peut-être deux ou trois fois ou quatre fois, c'est dans les playoffs, mais non, c'est quand je vois comment il rend les joueurs meilleurs autour de lui. Regardez, c'est pour moi un exemple. C'est un exemple de qualité et de c'est un donneur de confiance. Donc c'est vraiment vraiment top. Donc on verra plus tard.
Wilfried Nancy, je sais que vous êtes très sollicité. Votre passage ici à Montréal ne laisse personne indifférent. Merci de ces quelques minutes aux amateurs de sport, bien appréciés, et on vous souhaite la meilleure des chances demain contre le CF Montréal.
Merci beaucoup, ça fait un plaisir.
Merci, bonne soirée, au revoir.
Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
Recule un peu, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport.
Ancien joueur, ancien président des Alouettes, ancien commissaire de la Ligue canadienne de football, sénateur également. Il va être intronisé au temps de la renommée du football canadien, c'est en septembre. Mais demain, dans le match Alouette-Lyon, on va présenter certains membres aux amateurs qui sont présents à la mi-temps. On parle ici de Larry Smith qui est avec nous. Bonsoir, Monsieur Smith.
Bonsoir, mon nom est Larry.
Bonsoir, Larry.
Vous avez-vous oublié déjà?
Ben non. Comment oublier Larry Smith? Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Grosse soirée ce soir?
Oui, mais nous avons eu du plaisir de rencontrer les gens que j'ai pas vus depuis des années. Et en même temps, nous avons eu la chance de parler des... mémoire du football, le mémoire du sport de Montréal et à la même temps, comment nous avons reconstruire le franchise montréalais avec M. Wettenhall puis Jim Pop et ces gens-là. Alors, c'était très, très, très intéressant.
Avant de parler justement de ce que vous avez apporté à cette concession-là, parce que vous l'avez bâti en quelque sorte et c'est à titre de bâtisseur que vous allez faire votre entrée au temple de la renommée du football canadien. Qu'est-ce que ça vous a fait lorsque vous avez su qu'on avait pensé à vous pour finalement que vous deviendriez un immortel du football canadien?
Mais j'ai été honoré parce que j'ai reçu l'appel de Wally Boisneau dans mon char avec ma femme Lisa dimanche après-midi. Puis la voix a dit, Larry, t'étais sélectionné pour rentrer dans le temple. J'ai dit, mais qui parle? Il dit, Wally. J'ai dit, Wally Bueno? Parce que Wally et moi, nous étions les recrues. Et commencé en 1972 avec les Alouettes. Alors, j'étais honoré d'avoir cette nouvelle de Wally. Puis, quand j'ai fait une auto-réflexion, je pense que j'ai fait une contribution pour aider le redéveloppement de football au Québec avec les Québécois qui ont vraiment nous supporté. C'était vraiment un plaisir d'avoir quelque chose comme ça, un message d'un ancien coéquipier.
Quel bilan vous tracez de votre carrière, M. Schmidt?
Mais il y a trois composants. Comme joueur, c'est d'avoir les excellents coéquipiers, le fait que nous avons joué dans 5 Coupes Grey. Nous avons eu un grand succès avec Marv Levy, qui est un excellent coach. Alors, comme joueur de football, c'était ça. Comme commissaire, c'était l'objectif de sauver la Ligue dans le sens que nous avons la moitié de nos franchises à l'époque qui étaient faillites ou presque faillites. Et l'idée, c'est de être capable de jouer un autre jour et faire la survivre. Et en apportant Bob Whitehall, David Braley, ancienne de Hamilton, il a acheté Toronto et les Lions de Vancouver. Et Bob Young qui est allé à Hamilton, alors les placements, les morceaux commencent à tomber dans les vraies places où nous pourrions avoir le succès. Alors je regarde ce travail comme un placement de semences pour la continuité de la Ligue. Les Alouettes, troisième opportunité pour moi, c'est d'avoir l'occasion de vraiment mettre le cœur avec les gens comme Jim Popp, les coachs comme Mark Trestman, les excellents joueurs que nous avons eus et les excellents Québécois comme Pierre Vercheval, puis la gang, Steve Charbonneau, etc. Bâtir un club avec un succès de chaque année, succès, chaque année, guichet fermé pour 10 ans. Alors, je suis très fier de ça.
Vous parlez de tous ceux qui ont permis de relancer cette concession, des joueurs également qui composaient, les entraîneurs aussi qui ont fait en sorte, la famille Whitehall qui a fait en sorte que les Alouettes ont connu du succès. Et il y a toujours la même histoire ou la même anecdote qui ressort, M. Schmidt. Et vous n'avez pas parlé, vous n'avez pas parlé du groupe Youtou qui vous a peut-être sauvé en quelque sorte il y a plus de 20 ans.
Mais c'est une vraie histoire. Imagine-toi le semi-finale de l'Est, ça va être joué le samedi prochain. J'ai reçu un appel de la PDG de la RIO. Il m'a dit, Larry, j'ai un problème. J'ai dit, c'est quoi le problème? Il dit, mais là, vous autres, vous allez jouer où samedi prochain? J'ai dit, mais nous allons jouer au stade. Il dit, non, nous avons loué le stade de YouTube. Et j'ai dit, U2, c'est quoi ça, U2, un sous-marin? Il dit, non, soyez sérieux, Larry, c'est rock band U2. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il dit, mais ça, c'est votre problème. Et c'est comment nous sommes tombés avec McGill. Et nous avons acheté les canettes de peinture, puis nous avons les brosses, nous avons eu des bénévoles, nous avons peinturé les salles de bain, nous avons peinturé tous pour être capables d'avoir ce match. Mais au début de match, il y avait à peu près 5 000 personnes là, mais il y a eu une grève vis-à-vis le système de transport. Et mi-temps, c'était plein du monde avec 16 500 personnes. Je savais, à mi-temps de ce match, ça va fonctionner. Et nous avons une histoire avec le fonctionnement de Stade Percival Molson.
Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe actuelle de 2023? Vous suivez encore les activités, M. Schmidt?
Je suis chaque jour, chaque match, chaque équipe. Je vois aussi la NFL. C'est dans mon sang de faire ça. Le club, il faut comprendre une chose. Il y avait une question de propriétaire ownership depuis M. Whitehall, son sortie et quand il était malade, etc. Et il est décédé. Mais Danny Machocho est pris avec un vrai challenge. Et il y a le noyau d'une équipe qui est bon, mais c'est pas une équipe présentement qui est dominante. Alors, le job pour Danny, c'est de trouver des morceaux pour ajouter le finition pour que les Alouettes vont monter sur le niveau 1. Ils sont à niveau 1, 2, RB, etc. Mais ils ont les morceaux, mais il faut chercher probablement 3 ou 4 d'autres morceaux pour avoir une équipe au niveau que les amateurs de football montréalais attendent.
Dans les circonstances, dans tout ce qu'il a eu à traverser, Danny Machocha, quelle est votre évaluation de son travail?
Mais je pense que Danny est pas mal bright, puis il a toutes les connexions avec le football au Québec. Une chose à réaliser, c'est que le club a maintenant un propriétaire avec Pierre Carr, qui est un bonhomme avec l'argent, mais c'est un bonhomme qui est vraiment un Québécois qui va mettre ses ressources en arrière de le club. Ça, c'est très, très, très important. Parce que Bob Wettenhall était incroyable aussi, mais c'est un bonhomme de l'étranger. Monsieur Pelledo, c'est un bonhomme local. Nous avons besoin d'avoir un Québécois francophone, puis quelqu'un avec l'argent et la passion, pas pour juste le sport, mais la passion pour la communauté québécoise.
Quand il a pris possession de l'équipe, M. Pelledo, est-ce qu'on vous a lâché un coup de fil pour avoir votre avis de, je sais pas, moi, comment procéder afin de relancer cette concession-là?
Mais la chose que moi j'ai fait à distance, la minute qu'il était annoncé qu'il a pris le club, j'ai envoyé un courriel à lui en disant félicitations. J'ai dit, vous êtes le bonhomme du moment, puis c'est très important qu'un Québécois comme toi prenne et a le courage de prendre un club qui a besoin d'avoir les réparations, puis les additions, puis les améliorations. Et il était très gentil avec moi, puis il a dit merci, et nous avons communiqué une couple de fois. Mais il a fait la chose qui est la meilleure chose, le meilleur moment, et il a laissé tomber dans les mains de ses gens, son coach, son président et Danny Machocha pour prendre les mesures de lancer et essayer d'améliorer le club. Ça prend du temps. C'est pas overnight que le club va monter au premier placement. Ça va prendre, pour moi, un rebuild de 2-3 ans.
Monsieur Schmidt, vous avez mentionné tantôt la contribution des joueurs, la contribution des entraîneurs, la contribution de la famille Wettenhall qui a fait en sorte que les Alouettes sont devenues une puissance à un certain moment. C'est très rare que vous parlez de vous. On vous encense plus que vous, vous vous encensez vous-même. Mais Anthony Calvillo a dit... En fait, il était très reconnaissant pour ce que vous avez fait pour lui et ce que vous avez fait également pour Montréal. Qu'est-ce que ça fait d'entendre les commentaires de celui qui a été le joueur clé, le joueur pivot à un certain moment de l'organisation des Alouettes?
D'avoir ce type de feedback, j'apprécie ça énormément, mais il faut comprendre une chose. J'étais président, mais j'étais membre de l'équipe. J'étais ancien joueur, j'étais membre de l'équipe. Il faut connaître votre rôle dans l'organisation, puis il faut respecter tout le monde qui fait des contributions. J'étais un des gens qui a fait une contribution, puis je suis honoré d'avoir ce type de feedback. Mais il n'y a pas une personne qui est plus importante que autre personne. Tout le monde sont importants pour avoir le succès. Puis ça, c'est la magie, je pense, que nous étions capables d'être implanté pendant ces années de succès que nous avons vécu.
Avez-vous hâte à demain d'être présenté à la foule à la mi-temps?
Mais, probablement, je serai un peu nerveux, mais ça me fait plaisir d'avoir la chance d'occasionner et parler avec les gens avant le match, pendant le match, puis probablement après le match. C'est ce que j'ai fait quand j'étais président.
À qui allez-vous penser le soir du 15 septembre lorsque ce sera officiel que vous allez être membre du Temple de la renommée du football canadien?
Mais honnêtement, c'était pas anticipé parce que vous savez jamais qu'est-ce qui va passer dans la vie. Mais quand j'ai reçu l'appel de Wally Buono, ça m'a frappé. Et j'ai fait pas mal d'auto-réflexions de mon carrière de 3 phases. Comme joueur, comme commissaire et comme président du club. Et je suis très reconnaissant de tout le support et appui que j'ai eu des Québécois, des francophones, parce que là, c'est une opportunité pour nous de faire une différence, puis il faut continuer à développer nos jeunes. Éducation sport, parce que nous allons avoir pas juste les bons joueurs de football, mais les meilleurs citoyens de notre province et notre pays.
Larry Smith, ancien joueur et président des Alouettes, ancien commissaire de la Ligue canadienne de football, les Sénateurs, vous serez intronisé au temps de la renommée du football canadien le 15 septembre prochain. Un honneur amplement mérité. Merci Larry de votre temps, toujours apprécié, et à la prochaine.
Merci les gars, go Owls, go!
Merci, bye bye, bonne soirée. Alors voilà, c'était Larry Smith, personnage très sympathique, qui a, on peut le dire, mené à un certain moment à bout de bras cette concession-là. Pas certain qu'il n'allait pas cogner à la porte d'un président d'entreprise pour qu'il investisse quelques sous dans les Alouettes pour que ça marche. Puis ça fonctionnait, puis il l'a dit. Demain, je vais parler aux gens avant, pendant, puis après le match. Alors c'est ça, Larry Smith.
Les amateurs de sport.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.